quelques mots pour vous remercier parce que vraiment, enfin moi je vous ai rencontré lorsque je faisais mon master, mon mémoire, il y a date un petit peu, depuis temps que j'ai fait ma thèse. Vraiment ça a été, enfin vous m'avez tellement, vraiment beaucoup aidé pour mon mémoire, vous m'avez raconté l'histoire de elle, votre carrière, ça a été une après-midi dont je me souviens encore. Et lorsque j'en parle avec des chercheurs, des collègues, ça revient à chaque fois, on passe tous des merveilleux moments avec vous.
Merci.
Et on a tous des mémoires, des thèses qui sont passionnantes grâce à votre témoignage, grâce à tout ce que vous nous racontez. Donc merci au mon nom et je pense aussi au nom de la communauté des chercheurs. Vraiment, merci de votre disponibilité parce qu'en tant qu'historien, on est nombreux, c'est rare de pouvoir avoir des gens qui... on travaille sur les représentations, sur les discours. Là, on sait ce qui s'est passé grâce à vous. Donc j'en profite aujourd'hui pour vous remercier très sincèrement de votre accueil à chaque fois.
Merci.
Et de votre disponibilité. Alors, je vous donne quelques images que donc vous verrez là. Avec,
oui.
Je vous propose bien sûr, de revenir sur les débuts du magazine.
Alors, le tout début du magazine.
Le tout début.
Je n'y travaillais pas.
Et donc, c'est ce que j'allais vous dire.
Encore en classe.
Donc, vous interrogez sur.
Mais je suis une lectrice de la première heure.
Donc,
j'avais 15 ans, comme ça vous faites le calcul et vous voyez que j'ai beaucoup d'années. Et comment le journal est arrivé chez moi, je suis née dans le milieu de la mode, parce que comme vous allez me le demander, autant
exactement,
le dire.
C'était, j'allais vous demander.
Autant le dire tout de suite. Ma mère était dans la haute couture. Quand je suis née, elle était première vendeuse chez Chanel. Et ensuite, elle a été recrutée par Madame Schiaparelli comme directrice de sa toute jeune maison de couture rue de la Paix, avant d'aller place Vendôme. Et ça m'amuse quand on en parlait avec ma mère, qui m'a dit « j'ai été très tentée d'aller vers cette jeune Italienne excentrique parce que, pardon, Mademoiselle Chanel, j'en avais un peu assez de vendre des ouvrages de dames. » Bon. Et donc, dans mon enfance, eh bien, j'ai vu des collections quand j'avais 5-6 ans. J'avais cette chance. Bon, et j'ai continué à en voir. Et quand elle est sortie, le premier numéro a comme couverture un tailleur de Schiaparelli, où donc ma mère était directrice de la couture. Et le journal lui a très gentiment envoyé, avant la sortie en kiosque, ce numéro. Donc, j'étais en seconde, elle est arrivée à la maison avec ce journal en me disant « Ma chérie, voilà un nouveau journal qui va sûrement beaucoup te plaire. » Et à partir de ce jour-là, je n'ai pas cessé de l'acheter. Je le dévorais des yeux, je regardais Bettina sous toutes les coutures. Je n'avais pas imaginé un instant qu'un jour j'y travaillerais. Voilà,
donc vous avez fait...
J'étais lectrice, jeune lectrice de Elle.
Et comment êtes-vous rentrée au magazine?
Alors, je suis entrée au magazine en 1953, après avoir passé 3 ans dans un petit journal obscur où j'ai appris à tout faire, puisque nous étions 2 et demi pour le faire, donc ça c'était très productif. Et c'est un hasard de rencontre. Bon, c'est pas tout à fait un hasard que je sois dans la mode, mais c'était quand même une rencontre. Et c'est Hélène Lazareff qui avait une fille exactement de la même génération que moi, Michel Rosier, que je vois toujours et que j'aime beaucoup. Et donc, elle se demandait toujours des nouvelles de leur fille. Un jour, Hélène Lazareff a demandé à maman des nouvelles de sa fille et maman a répondu « Mais ma fille travaille dans un petit journal qui s'appelle Vive la mode » car c'était son nom un peu ridicule. Et Hélène Lazareff lui dit « Comment vous avez mis votre fille dans un autre journal que le mien ?» Et ma mère a répondu « Mais je n'ai mis ma fille nulle part, elle s'y est mise toute seule. Eh bien, quand elle en aura assez, dites-lui qu'elle vienne me voir. » Ah, ciel. Elle, bon, eh ben j'y suis allée, morte de peur, et j'ai été engagée tout de suite. Et j'y suis donc entrée au mois de juin 1953, et j'y suis restée jusqu'au printemps 1969. Donc, une époque tout à fait intéressante sur le changement du déroulement de la mode, des idées, etc. Mm-hmm.
Hein? Puisque vous êtes rentrée en tant que journaliste.
Je suis entrée en tant que rédactrice de mode. Dans une... Alors, à l'époque, Simone Baron dirigeait la rubrique. On disait directrice de la rubrique. Tout le monde n'était pas rédacteur en chef comme maintenant, mais c'était directrice de la mode. Elle avait une adjointe qui s'appelait Annie Rivemal. Et nous étions dans le bureau. Il y avait 4 personnes dans le bureau de la mode. Et je suis arrivée, j'étais la 5e. C'était des jeunes femmes, sauf une dame qui s'occupait des ouvrages, car non seulement il y avait des patrons, mais il y avait aussi des broderies, enfin tout à fait le journal à l'ancienne. On brodait des nappes, toutes sortes de choses, des smokes pour les enfants, enfin il y avait tout ça. Et les rédactrices avaient vaguement une spécialité. Une regardait plutôt la maille, l'autre s'occupait des patrons. Et moi qui avais commencé dans le journal où j'étais avant à voir un peu de prêt-à-porter, j'ai vu que personne ne s'occupait du prêt-à-porter. Et que moi, on ne m'avait donné aucun secteur à prospecter. J'ai donc proposé de m'occuper du prêt-à-porter. On m'a répondu oui. Alors c'était... un nombre de maisons assez limité au départ, et je ne vous dis pas ce que c'est devenu 10 ans après, parce que j'avais un tiroir avec les croquis des modèles qui m'intéressaient, ça tenait dans un tiroir dans quelques chemises, après c'était toute une armoire, voilà. Donc
on en parlait un petit peu ce matin, parce qu'avant votre arrivée, en effet, le prêt-à-porter n'existe,
on ne l'appelle pas tellement comme ça. En fait, ce sont les maisons de prêt-à-porter qui ont essayé de faire parler d'elles. Il y avait une association qui s'appelait les Trois Hirondelles, qui comportait entre autres l'empereur. J'ai un peu oublié toutes les autres. On peut trouver ça sûrement dans le livre de Didier Grimbach. Donc il y a quelques confectionneurs, comme on disait à l'époque, qui ont quand même essayé, et j'avais déjà été à Nice, par exemple, voir les maisons de prêt-à-porter de Nice, sous l'impulsion du maire de Nice, qui était Jacques Médecin à l'époque, avait invité les journalistes de Paris pour voir le prêt-à-porter de la Côte d'Azur. Donc il y avait un mouvement dans ce sens. Et ben c'est ça que je me suis dit, je vais m'occuper de ça. C'est intéressant.
Donc vous proposez de créer la rubrique.
Enfin, je dis, j'aimerais m'occuper du prêt-à-porter, oui, c'est tout. Hein, bon, et voilà.
Et
je faisais d'autres choses aussi. Il y avait 52 numéros à faire par an. Mais en réalité, toutes les idées, encore à ce moment-là, toutes les idées venaient de la haute couture. Donc la répercussion dans la mode quotidienne avait déjà 6 mois de retard. Valérie Thoragnan parlait des patrons tout à l'heure, ça a duré quand même encore dans les années 60. Il y avait énormément, là en ce moment je suis en train de, pour un travail particulier, de refeuilleter d'anciens numéros, mais c'est fou ce qu'il y avait comme patron. On des schémas aussi, quand il y avait une idée dans l'air et qu'on ne voulait pas faire un patron qu'on vendait, que c'était simple comme forme, on mettait le patron sur un papier quadrillé et après l'électrice l'agrandissait, le coupait et le faisait elle-même. Bon, là, je ne sais plus.
Et donc, ça durait jusque dans les années 60.
Oui, c'est-à-dire, oui. Quand j'ai commencé à faire des numéros de prêt-à-porter, c'est-à-dire un cahier avec uniquement un cahier de 8, 10, 12 pages sur le prêt-à-porter, ça reflétait les idées de la couture de la saison de 6 mois avant. Alors, comment est-ce que ça a évolué? Le premier styliste qui a travaillé dans le prêt-à-porter, c'est Gérard Pipard. C'est quelqu'un dont on ne parle plus beaucoup de nos jours et qui a, à partir des années, qu'est-ce qu'on va dire, peut-être 57, par là, 56, 57, a commencé à travailler pour différentes maisons de prêt-à-porter. Donc déjà, ça, dont Chloé, qui était pour nous le plus beau prêt-à-porter au point de vue à la fois Création, à partir du moment où est arrivé Gérard Pipard, et qualité, c'était très proche de la couture, en fait. C'était vraiment des très, très belles matières, admirablement cousues, assez près de la couture. Il y avait aussi d'autres excellentes maisons de prêt-à-porter. Mais les idées neuves ont commencé doucement, doucement à arriver. Il faut dire aussi que dans des cas comme ça, le journal fait faire des modèles particuliers pour des sujets. Donc ça, c'est pas très démocratique parce qu'elles ne sont pas très diffusées, mais on avait besoin. Et on demandait justement à Gérard Pipard, par exemple, il travaillait pour Chloé, il travaillait pour une maison qui s'appelait Germaine et Jeanne, et il a après travaillé pour beaucoup de maisons de la Côte d'Azur où il a fait des choses très brillantes. Et alors, on demandait, on allait demander à Gabi Aguillon, chez Chloé, avec Gérard, est-ce qu'on ne peut pas faire une robe comme ça parce qu'on a un numéro qui que, et on faisait, on faisait ça. Parce qu'on avait assez vite épuisé toutes les nouveautés de la saison. Alors, les numéros de couture étaient très importants. On se battait d'une rédaction à l'autre pour avoir les modèles. Alors, les séances étaient difficiles à organiser. Ça durait jusqu'à pas d'heure au petit matin, puisqu'on s'arrachait les vêtements. Voilà. Parce que tout le monde voulait les mêmes. Donc, on le faisait. C'était des numéros très importants.
Là, on a notamment mis une couverture sur le prêt-à-porter, donc quelques
mois. Mais ça, je crois que c'est d'avant moi.
Oui,
ça.
C'est quelques mois avant que vous arriviez sur 25 modèles. Mais je crois que c'est un des tout premiers.
Parce qu'avant, oui.
Robe toute faite. C'est vraiment. On parlait ce matin de la terminologie. En fin de compte, on passe de toute confection à robe toute faite.
Alors c'est. Mais c'est-à-dire que moi, je ne le concevais pas comme ça, le prêt-à-porter, j'y croyais, parce que sans ça, j'aurais pas demandé à m'en occuper. Et le premier numéro que j'ai fait, naturellement, vous faites vos photos, après, quelqu'un d'autre fait les textes, le titre, bon. Et il a été appelé « Comment gagner du temps ?» Ça va beaucoup plus vite que de le faire faire par sa couturière. Dans mon idée, ce n'était pas ça du tout. C'était une autre façon de s'habiller. Mais ça n'avait pas été perçu comme ça, dans le titre, après. Ça l'est devenu.
Parce que vous savez, une des premières enquêtes dont je parlais en 52, c'est aimeriez-vous trouver vos robes toutes faites ? Et il y a une vraie enquête. Alors, j'ai qu'un extrait à droite.
Oui,
les avantages, les inconvénients.
Oui.
On sent qu'on pose la question.
Je l'ai pas regardé. Oui. J'ai complètement oublié ce numéro.
C'est très intéressant.
Évidemment.
C'est une enquête les avantages. On a la rapidité, satisfaction immédiate d'une envie ou d'un besoin de robe, sûreté, pas de surprise désagréable, on voit ce qu'on achète, économie à qualité égale, les prix confection sont souvent inférieurs aux prix sur mesure.
Alors voilà le mot confection.
Qui était plus, on en parle souvent.
Alors il y avait couture, la confection et puis toutes les robes qui étaient faites par les couturières. Il y avait des couturières de très haut niveau qui reproduisaient des modèles de haute couture dans les tissus du couturier. Et puis il y avait des couturières plus modestes, mais enfin, c'était quand même. Et la confection, c'est pourquoi on a changé le vocabulaire a changé. Ça s'est appelé le prêt-à-porter. La confection, ça avait un petit côté péjoratif.
Oui.
Ça fait vêtements de confection. Ça peut être très bien.
Mais vous voyez, là aussi, il y a les inconvénients du prêt-à-porter. Et dedans, on y lit quoi ? Multiplication d'un même modèle, donc là aussi péjoratif. Impossibilité de trouver exactement ce qu'on désire. Si la façon convient, la couleur ou le tissu ne conviennent souvent pas. Difficulté de trouver un modèle juste à ses mesures. Et la question, en face de ces reproches justifiés, que fait la confection française ? Et c'est vrai que quelques temps après, on a le prêt-à-porter qui est un
sûr.
Petit peu plus...
Mais alors, trouver aussi un modèle à ses mesures, il faut voir comment est la mode à cette époque-là. Elle est extrêmement ajustée. Donc, c'est quand même, ça pose quand même un problème. Parce que des modèles qui sont très cintrés à la taille, comme c'était à l'époque, c'est très difficile de les avoir en prêt-à-porter qui tombent impeccablement parce qu'il fallait que ce soit impeccable.
Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je ne monopolise pas la parole. Est-ce que non ? Tout le monde est subjugué. C'est une question par Sophie qui, ce matin, a parlé. On va en parler juste après des partenariats avec les magasins.
Oui, c'était sur les patrons, justement. J'ai pas compris comment ça se passait avec Gérard Pipard et puis chez Germaine et Jeanne. Donc, Germaine et Jeanne était une boutique.
Non, Germaine et Jeanne était un confectionneur. D'accord. C'était une maison de prêt-à-porter qui n'existe plus depuis très longtemps.
D'accord.
Mais qui était une maison de prêt-à-porter qui faisait des vêtements bien faits dans de belles matières et qui ont fait appel à Gérard Pipard pour leur collection.
Et dont vous parliez dans le journal.
A fait appel à Gérard Pipard pour sa collection.
D'accord, donc Gérard Pipard dessinait pour Germaine et Jeanne
et pour Chloé. Pour Chloé et pour d'autres maisons, puisqu'il a beaucoup travaillé aussi pour la Côte d'Azur.
D'accord. Et quand vous disiez que vous vous battiez, c'était un peu la foire d'empagne, c'était parce que c'est pour que Germaine et Jeanne fassent ces modèles ?
On se battait. Non. On se battait pour les modèles de couture.
D'accord.
Quand on faisait les numéros de collection, tout le monde voulait le modèle fourmi de Christian Dior. Alors, mais moi, il n'arrive pas, mais le mannequin va s'en aller. Oui, mais il est à vogue. Ah, mais non, il est reparti à la femme chic. Enfin, c'était des choses pour nous. Ah, enfin, je l'ai eu. Ouf. Bon, c'était très important. Ces numéros de collection, très importants. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle des maisons de couture, peut-être. Alors, pas.
Oui, je me permets juste une dernière question, toujours le prêt-à-porter, les partenariats avec les Galeries Lafayette et avec Prise Unique, c'est quelque chose qui nous intéresse.
Ah, énormément. Alors, je parle de l'époque où j'y étais. Avant, je ne sais pas s'il y a eu des partenariats avec des grands magasins, peut-être. Dans les premiers temps où j'étais à Elle, peut-être même la première année ou la seconde, on a fait un numéro style Elle avec les Galeries Lafayette. C'est forcément le premier dont je me souviens. Mm-hmm. On en a fait d'autres ensuite. Ensuite, on a arrêté et on a eu des numéros en partenariat avec Prise Unique. Mm-hmm. Parce qu'alors là, on va être amené à parler des bureaux de style. Mm-hmm. Parce que Prise Unique, sous l'égide de Denis Fayol, a fait des efforts extraordinaires pour, dans tous les domaines, aussi bien de la maison, mais enfin, ce qui me concernait, c'était la mode. Donc, mm-hmm. pour avoir une mode vraiment accessible, de style très bien. Donc, on a eu des numéros entiers. Enfin, des cahiers entiers avec Prise Unique. Et ensuite, après, quelques années après, on a fait le style Elle avec le printemps. Mm-hmm. Les bureaux de style des grands magasins se sont énormément étoffés et les bureaux de style sont nés à Paris dans ces époques-là. Il y a eu le bureau de Maïmé Arnaudin avant Mafia, le bureau de style de Maïmé Arnaudin et Promo Style, ce sont ceux qui me restent le plus en mémoire.
Mm-hmm. Oui.
Donc tout ça allait dans le sens d'une mode plus accessible et oui, à tout point de vue.
Mm-hmm. Et comment se passait le partenariat quel modèle style, comment ça se passait?
On discutait avec le bureau de style, on établissait, ils montraient ce qu'ils avaient. Mm-hmm. Nous choisissions dans ce qu'ils avaient, ce qui peut être pourrait être dans ce numéro, et on faisait des suggestions aussi. On pourrait peut-être avoir des pull-overs comme ça, ou des imperméables comme ci. Mm-hmm. Enfin, c'était un travail de collaboration. Mm-hmm. Et après, on faisait un numéro, il faisait les vitrines.
D'accord. Et il y avait un style L, c'était très...
C'est style L.
D'accord. Et ça, est-ce que vous avez un retour du... Parce que ça nous intéresse aussi, cette question du retour du public, enfin des lecteurs, ça a été quelque chose qui a fonctionné?
Je ne me souviens pas, parce que là, dans les questions que vous m'aviez envoyées, vous parliez du courrier des lectrices. Mais dans un journal de l'importance de Elle, moi qui ai commencé dans un tout petit journal où on apprend tout, on fait tout. Donc, on répond au courrier, on va à l'imprimerie, on donne les bons à tirer. Bon, dans un journal comme Elle, il y a du monde pour tout faire. Moi, le premier sujet que j'ai fait, quand j'ai trouvé la maquette sur mon bureau avec le nombre de signes pour le chapeau et les légendes, je suis restée très tard parce que je l'ai fait calibrer et je me suis dit c'est mon premier travail, il faut que ce soit bien. Bon, ben, quand c'est sorti, tout avait été entièrement repris, il y avait un autre titre, un autre chapeau. Bon, d'accord. Je veux dire, alors, le courrier des lectrices, c'était très important. Et il y avait le courrier du cœur de Marcel Segal. Il y avait dans tous les domaines. À l'époque, les femmes demandaient énormément. Mm-hmm. Oui. On parlait tout à l'heure d'être sûr de soi et que votre journal vous aide à être sûr de vous. Eh bien, dans ces époques-là, elle posait des questions dans tous les domaines, alors dans la mode énormément aussi, et seulement certaines lettres nous arrivaient, celles auxquelles on pensait que c'était à nous de répondre, donc on n'était pas submergé de courrier. Mais le courrier, c'était quand même, j'ai un tailleur comme ça, j'ai un mariage, est-ce qu'il est encore à la mode? Alors, à chaque saison, il y avait comment mettre à la mode votre garde-robe de l'année dernière. Alors, Simone Baron s'était fait une spécialité. On se moquait gentiment d'elle, parce que nous, on était très jeunes à l'époque. Et bon, alors, elle avait un très joli coup de crayon, et elle faisait ses petits dessins. Alors, vous coupez les manches, vous mettez un revers de piqué blanc, un petit col avec un nœud, on arrangeait sa garde-robe de l'année dernière pour la mettre au goût du jour.
Est-ce que, par exemple, parce qu'on a la récurrence de ces rubriques, les solutions double usage, et c'est Simone Baron vous répond, voilà. Simone Baron résout vos problèmes, voilà. Et on a ce genre de rubrique récurrente.
Alors ça, et puis la mise au point, la mise à jour de votre garde-robe de l'année dernière, cette année, en ajoutant ceci, en coupant cela. Oui, c'était comme ça. Le courrier était plein de demandes comme ça.
C'est ce que vous me disiez, c'était un de mes souvenirs lorsqu'on en avait parlé, l'importance de la notion de service à cette époque. Il y avait une grande demande de la part des
clients
et le magazine était là, leur service.
Oui.
J'ai juste quelques rubriques qui me semblent bien répondre à cette notion de service. Donc, la rubrique Simone Baron répond à vos questions, dont on a vu là un extrait.
Oui.
Les bons magiques.
Alors, le bon magique... Je l'ai connue avant d'être au journal Elle. J'étais lectrice assidue, donc j'ai acheté le premier bon magique. C'était un poudrier qui venait des États-Unis. L'idée première du bon magique, c'était de proposer aux lectrices des choses qu'on ne trouve pas en France. Donc, je crois qu'il venait des États-Unis. Il était en cuir avec un petit, je m'en souviendrai toujours, avec un petit zip autour. Bon, mais pour moi, c'était le bon magique de Elle. Il fallait que j'aille l'acheter. Donc, je suis allée l'acheter. Et c'était ça la philosophie du bon magique. Et je trouvais ça bien. Quand je suis entrée à Elle, c'était quand même 8 ans après. Bon, ça avait déjà un petit peu dérapé vers « il faut que ça remplisse les caisses ». Et moi, ça me choquait toujours. Je disais « il faut qu'on fasse une chose qu'on ne trouve pas ». Bon. Eh bien, alors ça, d'une chose qu'on ne trouve pas, après, on a trouvé de plus en plus de choses. Donc, c'est devenu une affaire plus commerciale. Je m'en suis pas mal occupée dans les années 60 et j'étais souvent un peu en conflit à cause de ça. Je disais, mais non, je ne veux pas faire une petite robe avec le manteau assorti pour les mariages. Faisons des t-shirts et des choses qu'on ne trouve pas.
Et c'était donc, on en parlait ce matin, on pouvait le découper, ça c'était un...
Oui, c'était le bon magique. Alors on le découpait, on l'envoyait, on envoyait son chèque ou on l'apportait.
Ah oui, là il y a un mois de livraison.
Mais après c'est devenu une boutique. Et c'était une boutique, vous n'aviez plus besoin d'avoir un bon magique et vous pouviez en acheter 6 si vous vouliez.
Est-ce que c'était cette boutique sur les Champs-Élysées ou...
Il y en a eu deux.
C'était une boutique éphémère ou c'était une boutique...
Non, il y avait une boutique. La première dont je me souviens était assez près du rond-point, sur le trottoir des numéros impairs. Très en étage. Et après, il y a eu une grande boutique dans le haut des Champs-Élysées, tout près de l'Étoile, de l'autre côté, qui a duré assez longtemps. Et dans cette boutique, nous nous occupions quand même de certains articles qui touchaient la mode. On ne laissait pas faire n'importe quoi. Alors, il y a eu un des succès dont j'étais très contente, puisque j'étais à l'origine de ça. À une époque, dans les fins des années 50, je pense, début 60, les bas étaient dans des couleurs de jambes un peu bronzées, absolument effrayantes. Il y avait même une année, une promotion sur la couleur cognac. Et ça, c'était mais redoutable. Bon, et alors j'ai demandé qu'on fasse des bas, pas blancs, mais presque un beige extrêmement clair. Et on les a gardés, mais pendant des années. Et alors le plaisir, c'était de voir dans les collections les rédactrices des autres journaux qui avaient toutes nos bas de la boue de... qui étaient au départ un bon magique et qui sont restés un produit fixe dans la boutique, elle, parce qu'elle aurait... Bon, ça s'est développé, c'est devenu une chose commerciale, ça s'est beaucoup agrandi. Donc, pour moi, le bon magique était un service. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que nous étions là pour aider les femmes, les informer d'abord. Alors, les informer de quoi ? De ce que nous trouvions bien. Il y a une subjectivité, je pense, dans un magazine. Sans ça, s'il n'y en avait pas, ils se ressembleraient tous. Et enfin, je suis tout à fait pour cette subjectivité. Et dans cette forme de journalisme, contrairement au journalisme écrit, où on va peut-être critiquer certaines choses, encenser d'autres, la critique dans un magazine comme Elle, eh bien, c'est l'absence, on n'en parle pas. Telle collection, on ne la trouve pas du tout à notre idée, eh bien, on n'en parle pas et on ne montre rien.
Hein ? C'est une manière de...
Ben non, oui, c'est comme ça. On fabrique une mode dans l'esprit, elle, parce que en réalité, style, elle, c'est toute l'année dans notre tête. Alors, on avait bon magique. Après, vous aviez parlé de...
Juste à coudre.
Alors, juste à coudre. Ça, c'était un truc, ça ne m'amusait pas du tout. Mais bon. C'était une pochette avec tout. Il ne restait qu'à coudre. Ça veut dire que le modèle était coupé. Il y avait eu un tissu de choisi. Il y avait toutes les fournitures.
Les fils, les aiguilles.
Tout. Mm-hmm. Oh, les aiguilles, bah, je ne sais pas. Peut-être pas, j'en sais rien. Je ne suis jamais allée voir dans la pochette, je ne vous le cacherai pas. Mais donc, vous achetiez ça et hop, à ma machine à coudre. Mm-hmm. Bon. Et ouais. Ça a continué. Moi, je suis partie de Elle en 69, oui, en juin. Et il me semble qu'en 68, il y en avait encore et on en a même eu de grands couturiers.
Ah bon ?
Donc ça, ça a été... Mm-hmm.
C'est assez...
Bon, ça a été décidé, on s'en est occupé, on les a fait. Mm-hmm. Mais enfin, je trouvais que c'était déjà très périmé tout
oui,
ça, parce qu'à cette époque-là, le prêt-à-porter était
quand même
formidable.
Mm-hmm. Oui, oui. Bon. Mm-hmm.
Mm-hmm. Alors,
donc ça, c'était
à coudre, les patrons, elle va bien. Ben, les patrons, ça a tenu une place immense dans le journal.
Oui. Oui. Mm-hmm. Bon. Et jusque...
Ben, je ne sais pas. Très franchement, comme je ne m'en occupais pas particulièrement, je me suis bien débrouillée.
Vous étiez à la place
Mais ça a duré assez longtemps. Enfin, j'ai aucun mépris pour les gens font leurs vêtements, bien au contraire. Mais
c'est aussi l'époque qui... Allez, qui prenait une autre direction.
Et j'aimais bien aussi, on ne va pas critiquer non plus les choses à faire soi-même, parce que quand on repérait quelque part sur quelqu'un, une idée, quelque chose qui n'est pas vendu et qu'on ne donne pas en patron, j'étais très contente qu'on ait ces rubriques de schéma. Mmh. Hein, c'est comme ça qu'on a, on a publié le premier modèle d'Emmanuel Kahn. Je regrette qu'elle ne soit pas là.
Moi aussi.
Emmanuel Kahn était mannequin. Elle présentait la collection Prise Unique, qui était un événement très très attendu par nous puisque c'était une mode accessible et patente. Bon, Emmanuel sort habillé. C'était 61 par là, habillée comme je n'avais jamais vu personne, en Shetland gris, une petite jupe taille basse, jamais vue, une petite chemise avec un col, on a appelé ça hirondelle par la suite, et un gilet court dans le dos et plongeant devant, une silhouette vraiment jolie, très et tout à fait nouvelle. Je dis mais d'où sors-tu cette tenue, c'est formidable ce que tu portes. Eh bien, c'est moi qui l'ai faite. C'est toi qui l'as faite. Bah, tu viens au journal demain. Ce qui a été fait, j'ai emmené Emmanuel avec sa tenue voir Hélène Lazareff. On l'a photographiée et on a fait ce qu'on appelle un schéma parce qu'on ne pouvait pas photographier une chose inaccessible. Alors, c'était un petit peu Il n'y a pas beaucoup de femmes qui savent se faire un vêtement d'après un schéma. Mais enfin, on donnait ce schéma sur papier quadrillé et on se dédouanait pour montrer une nouveauté.
Oui, donc une vraie notion de service, de proximité, de relation de confiance avec la lectrice. Et j'imagine que quelques années avant, c'était aussi après la guerre, parce qu'il y a des numéros sur comment se laver, l'hygiène, qu'est-ce que c'est. Oui. Et vous, cette idée que la guerre avait...
C'est Françoise Giroud, malheureusement. Oui. Françoise Giroud a quitté, elle, à peu près un mois avant mon arrivée. Je l'ai beaucoup regrettée. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler sous ses ordres. Qui m'aurait bien plu, mais ça ne s'est pas trouvé. Mais en effet, il y a eu des enquêtes sur l'hygiène. L'après-guerre, il y avait une pénurie aussi de vêtements. Mmh. Alors, bien sûr que là, je ne me suis pas plongée dans les L des années, la fin des années 40, parce que le New Look de Dior, ça a quand même fait... ça a eu un retentissement considérable, c'est-à-dire que les femmes qui n'avaient pas les moyens de se faire une nouvelle jupe, là, alors on mettait des bandes, c'était abominable quand même. Les arrangements pour essayer de s'habiller tout d'un coup à 10 cm au-dessus de la cheville, alors que toutes les robes étaient sous le genou. Mm-hmm. Bon, mais enfin, ça s'est produit comme ça. Mais, alors, quand je suis entrée à elle, on n'en était quand même plus là. Ouais. Mais je dois dire que les images, quand on regarde maintenant, c'est extrêmement convenu, très posé, parce que ce qu'il fallait, c'est qu'on voit le modèle, qu'on voit le maximum. Il fallait voir s'il y avait un rabat de poche. On photographiait les dos aussi. Et les séances de photos, on était à côté du photographe. Attention, attention, là, il y a un pli. Allez, hop, j'arrive. C'était souvent un peu trop grand. Il y avait les pinces à linge. Quand il y avait des ceintures, on mettait des boîtes de film Kodak derrière, parce que les mannequins étaient parfois plus minces que le vêtement. Il fallait que ce soit parfait. Il n'y avait pas Photoshop, on pouvait retoucher, mais enfin quand même. Il fallait qu'on voit tout, puisqu'à la fin du compte, il y avait reproduction prévue. Et les poses, du coup, les photos étaient très statiques, les mannequins avec un point sur la hanche. Enfin, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas me couvrir de ridicule.
Écoutez, vous parlez des photographes, c'était quelque chose qui nous intéresse aussi. Au début, oui, elle est photographe. Notamment, évoquer le cas de Peter Knapp. Alors, avant, je vous diffuse une toute petite vidéo qui me semblait intéressante. C'est Peter Knapp qui évoque sa carrière au sein du magazine. Alors attendez que je ne recommence pas.
Peter Knapp, directeur artistique de Elle, c'est déjà une époque passée. Vous en parlez déjà comme d'un temps plus lointain et heureux.
C'est passé. Oui, c'était bien parce que c'était l'armée, vous voyez. Il y avait les copains, il était une grosse bande et on rigolait. Et puis on avait une influence mondiale. Il y avait beaucoup de choses, c'était bien. Vous voyez un peu, enfin, toute proportion gardée, mais je crois...
Peter Knapp, directeur artistique de Elle, c'est déjà une époque passée. Vous en parlez déjà comme d'un temps plus lointain et heureux.
C'est passé. Oui, c'était bien parce que c'était l'armée, vous voyez. Il y avait les copains, il était une grosse bande et on rigolait. Et puis, on avait une influence mondiale.
Enfin, je ne vais pas aux échecs.
Il y avait beaucoup de choses, c'était bien. Vous voyez un peu... Enfin, toute proportion gardée, mais je crois les Beatles avaient connu un moment comme nous on avait connu à elle. Comme ça, tout en s'amusant, ça comptait, c'était bien.
Voilà, j'ai trouvé que c'était une vidéo qui devait sans doute bien illustrer l'état d'esprit, en tout cas votre collaboration avec lui qui a été fructueuse et donc...
Bah, l'arrivée de Peter Knapp a modifié, mais tout bougeait en même temps, parce que on parlera des créateurs qui sont, enfin, des stylistes, on disait à l'époque. Les créateurs, c'est une histoire plus tard. Ça bougeait un petit peu dans le milieu de la mode, mais l'arrivée de Peter Knapp, moi, ça m'a changé la vie, parce qu'il n'y avait pas vraiment de direction artistique à Elle. Il y avait un studio de maquettistes avec un directeur, deux d'ailleurs, on les appelait directeurs techniques. Des hommes tout à fait sympathiques, mais on disait on fera faire les photos par un tel ou par un tel, et c'est tout. Nous n'avions absolument aucun échange C'était pas une véritable collaboration. On disait, voilà, il y a un article de ceci ou de cela, bon, ben, on va pourrait le donner à Dupont, et puis après, avec le photographe, on disait, on va aller faire ça dans la forêt de Fontainebleau. Enfin, bon, c'était comme ça. Bon, il n'y avait pas d'échange. Quand Peter Knapp est arrivé, ben, c'était le jour et la nuit. On en travaillait. C'était un échange permanent. Nous soumettions notre problème, il trouvait une façon de le résoudre, on fera ça, ou bien c'est lui qui avait une idée, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un truc comme ça, est-ce que tu as en prévision une mode qui pourrait aller... Enfin, on travaillait, c'était merveilleux, c'était très, très... En effet, on s'amusait, c'est pas le... Oui, c'est... C'était positif, joyeux, productif. Et s'il y avait, en plus, Peter était très, très rapide. Donc, quand il y avait une vraie difficulté et un problème, clac, il y avait une solution. C'était vraiment une collaboration extraordinaire. Enfin, moi, j'ai adoré cette époque. Et quand il est parti, j'ai trouvé ça très dur.
Oui.
La rupture était... Oui, mais alors, pardon, vous non, le conseillez, c'est comme directeur artistique, parce qu'il a aussi été photographe, donc moi je parle directeur artistique, là.
Oui. Parce qu'il a été photographe aussi.
Il est photographe aussi. Mais quand c'était lui qui faisait les photos, je trouvais ça très bien, mais c'est en tant que directeur artistique qu'il m'a manqué après, quand il n'était plus là.
Pour la mise en œuvre des photos, des reportages, vous aviez des moyens très importants. Enfin, on a vu que vous pouviez aller faire... Enfin, on a vu ce matin des reportages qui étaient dans différents pays du monde, des photos, donc des photographes, des équipes, des mannequins qui se déplaçaient.
Oui.
Et alors, c'était courant pour la mode, mais c'était aussi courant pour les autres rubriques.
C'est surtout pour la mode. Enfin, les autres rubriques, c'était quand... si c'est la partie magazine, ça, il aurait fallu en parler avec Valérie. Ah, ben non, parce qu'à cette époque, elle n'y était pas... peut-être même pas né. Bon. Non, si le magazine allait dans un pays, c'est parce qu'il s'y passait quelque chose qui n'avait aucun rapport avec la mode. Alors, parfois aussi, il se passait quelque chose de bien dans un pays et on combinait un article magazine et une série de mode. Donc, il y avait des budgets, certes, mais on était généralement invités. Il y avait toujours ça je m'en occupais pas du tout, hein. Il y avait des invitations sur certaines compagnies d'aviation, sur certains offices de tourisme qui nous recevaient dans un hôtel. Le journal louait une voiture, enfin, assumait certains frais, mais c'était assez allégé, disons. Et les séances, bon, maintenant, d'ailleurs, j'ai entendu qu'on n'appelle plus une séance de photo, on dit une prod, une production. Bon, c'était moins lourd, hein. Les mannequins, autrefois, ça, on n'en a pas parlé, mais dans les années 50 encore, les mannequins, on leur disait de venir avec leurs escarpins, leur Mary Widow. Mary Widow, c'était une lingerie américaine, un bustier guêpière qui faisait porte jartelle et qui faisait les seins un peu pigeonnants. Donc, pour toute cette mode d'après Dior, tu viens avec tes escarpins, ton Mary Widow, et elle se maquillait parfaitement bien toute seule, et il n'y a que pour les numéros de collection ou les couvertures qu'on faisait venir un coiffeur, un maquilleur, etc. Hein? Donc, dans les voyages, à l'époque où j'en ai fait, parce qu'après, bon, plus on prend de responsabilités dans une rédaction, moins on réalise les choses. Mais j'ai fait beaucoup de voyages à une certaine époque, il n'y avait ni coiffeur ni maquilleur. Bon, c'est moi qui repassais les robes, et c'est les mannequins qui se coiffaient et qui se maquillaient. Hein, maintenant, ça paraît impensable. Ce sont des équipes absolument très lourdes. Et la rédactrice était toujours à côté de l'appareil pour être sûre que c'est bien ce qu'elle voulait qu'on montre qui était là et que la fille n'était pas en train de lacer son soulier et on ne voyait plus sa ceinture. Voilà.
Alors, et le photographe avait-il autant de poids Parce qu'aujourd'hui, c'est des photographes vedettes.
C'est les photographes qui commandent aujourd'hui.
Alors qu'avant, c'était moins... C'était plus
bah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Ben, d'ailleurs, on travaillait en bonne entente. On était d'accord sur ce qu'il fallait faire. Après, il y a eu conflit. Parce que, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Et donc, c'est pas, je n'étais plus à elle, mais à Marie-Claire. Il y a eu conflit parce que quand les tarifs des photographes ont commencé à baisser, ils ont utilisé... Les magazines, ils gagnaient moins d'argent en faisant des photos pour les magazines et ils les ont utilisées pour faire des expérimentations et faire leurs books. Hein? Bon. Mais ça, ce n'était pas du tout le cas à l'époque où j'étais à elle. Donc, on était d'accord sur ce qu'il fallait faire.
Oui, encore une question. Avec la venue du prêt-à-porter, est-ce que aussi le fait de faire du stylisme dans les reportages a commencé? J'imagine qu'avant, quand dans les magazines de mode, on proposait des silhouettes par tel et tel couturier, telle maison, et on ne combinait pas, par exemple, un manteau de tel couturier avec une robe de tel couturier. Est-ce que maintenant, dès le début, est-ce que vous avez commencé à combiner un Dior avec un Balenciaga, par exemple ?
Non, parce que les couturiers... mais parce que vous êtes sur le prêt-à-porter des couturiers ou sur la couture?
Non, je suis sur le prêt-à-porter. Bon, donc, pas de Dior,
le prêt-à-porter des couturiers n'existait pas à ce moment-là. Alors là, avec la couture, courage, naturellement, on ne faisait pas de mélange. Dans les numéros spéciaux prêt-à-porter, quand on avait remarqué une silhouette très réussie, on la gardait. On la laissait dans son intégrité de la même maison. Si on, mais je suis tentée de parler de gens qui sont après. Là, il faut. Bon. Mais dans tous les numéros qui n'étaient pas des numéros de collection de prêt-à-porter, où on voulait essayer de faire passer, voilà ce que tel styliste a voulu vous dire. Donc là, on montre sa tenue entière. Bon, après, dans tous les numéros, c'était un mélange, bien entendu. On allait dans le prêt-à-porter, dans les grands magasins, et on fabriquait des tenues comme on fait maintenant, en toute liberté rédactionnelle. J'insiste là-dessus.
Est-ce qu'on peut considérer ça aussi le début du stylisme, alors?
Ben, si vous... parce que maintenant, on dit des stylistes photos. Nous, c'était des rédactrices de mode.
Oui.
Maintenant, ce sont des stylistes photos. Voilà. C'est le début, oui. On faisait
styling,
ça.
Voilà,
on faisait ça, styling. Bien sûr, et on inventait même des choses. Tout d'un coup, on avait l'inspiration d'un film ou de quelque chose, et on essayait de bâtir une histoire, et on construisait les tenues avec différentes maisons. Et ça pouvait être des idées qui venaient de la rédaction de Elle.
C'est quand même assez important.
Mais bien sûr, c'est très important. C'est ce qui fait la différence entre un magazine et un autre. La couture, elle restait la couture. Et alors, au fur et à mesure que le prêt-à-porter est devenu de plus en plus intéressant, parce que là, je vous ai parlé de Gérard Pipard, qui est le premier à avoir fait... De la création dans du prêt-à-porter sont arrivés très vite. Alors là, il y a eu quand même une arrivée de femmes, Emmanuel Kahn, Christiane Bailly, Michel Rosier, bon, qui ont fait quand même très fort là, à ce moment-là, dans le tout début des années 60. Michel Rosier, par exemple, qui était journaliste, et qui n'avait absolument pas... Bon, bien sûr qu'elle est étant la fille d'Hélène Lazareff. Elle était au courant de la mode depuis toujours. Elle a fait dans la maison Oser Sport une collection qui s'appelait V2V, vêtements de vacances, qui était absolument formidable. Elle a utilisé tous les grosses fermetures à glissière qui attachaient les bâches des camions, des matières du vinyle. Elle a fait un sportswear tout inédit, magnifique. Bon, après, elle a fait d'autres vêtements avec beaucoup de talent. J'admire beaucoup que n'ayant fait aucune étude de stylisme, de modélisme ou quoi que ce soit, elle ait pu faire des vêtements aussi bien. Alors, quant à Christiane Bailly et Emmanuel Kahn, c'était ces deux anciens mannequins. Elles étaient toutes les deux chez Balenciaga. Je crois qu'Emmanuel a aussi été chez Givenchy. Et bon, bah, elles avaient un amour de la mode et une habitude, une connaissance du beau vêtement. Et elles ont toutes les deux fait des très belles collections, même ensemble. Elles ont fait une petite marque ensemble. Emma Christie, Emmanuelle Christiane. Ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Et Christiane Bailly a eu une carrière un peu plus en dents de scie, mais elle a fait des vêtements remarquables. Et Emmanuelle Kahn aussi. Elle a fait, alors elle a habillé la France entière quand elle a travaillé pour Cacharel. Elle a fait ses petites chemises avec ses cols, des Bermudas. Tout d'un coup, voilà, une mode. C'est le début, les bonnes collections de Cacharel, c'est le début d'une mode jeune et sportive, accessible à tout le monde. Parce qu'en fin de compte, il faut bien reconnaître que quand j'étais jeune, moi, il n'y avait rien pour les femmes entre 16 ans et 30 ans. Il n'y avait rien. Hein, d'emprunter, si elles sortent, le manteau de leur mère ou je ne sais quoi, pas la robe, parce que généralement la taille n'est pas la bonne, mais rien n'était fait. Pour les jeunes, là, c'est sorti vraiment formidable.
C'est-à-dire un thème, elle, les stylistes, avec la question, l'importance du magazine.
Oh, ça, c'est Pierre Cardin, la robe rouge. Alors, c'est de la couture, là.
Là, cette photo-là.
Oui, la robe rouge et la blanche aussi.
Ah, c'est du, donc c'est du...
Et là, celle de droite, alors, je ne sais pas si c'est... Mais, enfin, ça n'a aucune importance, parce que c'était très joli. Ah non, ça, la robe rouge, 66, je peux vous le dire, parce que je l'ai, elle est dans ma cave. c'est 64 ou 65.
Oui. Alors, je vous montre une petite vidéo encore. Excusez-moi, je suis très vidéo, mais je trouve que c'était une vidéo qui illustre ça, l'émergence des stylismes et l'importance qu'ils ont eue à cette époque. Donc, c'est une petite vidéo très courte. C'est magique, ça marche.
Alors voilà un exemple. Quand on dit que les femmes ne voulaient pas être habillées pareilles, à ce moment-là, elles veulent être habillées pareilles. Hein?
Paris, août 1969. Être à la mode aujourd'hui, c'est le contraire d'il y a 10 ans. Il ne s'agit plus de se différencier, mais de se ressembler. Dans la rue, s'entrecroisent de saison en saison
mais
des silhouettes jumelles, reproduites
c'est
à des milliers d'exemplaires. Qui fait la
parce
mode
que là, on en...
Qui fait rêver les femmes le long des vitrines? Qui les influence au point qu'on les confonde? La réponse est confuse, complexe, contradictoire.
À votre avis, qui fait la mode? Bien, je pense que la mode est faite par un ensemble de personnes qui travaillent parallèlement, pas nécessairement
ça,
en groupe.
Ça, c'est drôle quand même.
Ce sont des gens qui ont du flair et qui n'agissent pas par caprice, mais qui ont une très bonne éducation de l'œil et qui captent les idées. Ces gens peuvent être des stylistes, des fabricants, des journalistes ou certaines femmes locomotives qui ont elles-mêmes des idées et qui osent les porter en premier.
Oui, il y a eu quelques détaillants, dont Dorothée Bis, Ellie Jacobson et Jacqueline qui parlaient là tout à l'heure, et Sam Riquiel, Laura en particulier, il y en a eu 2-3 autres. Il y a eu des détaillants qui ont énormément participé à l'arrivée de maisons qui avaient des collections qu'on n'aurait pas trouvées nous toutes seules. Par exemple, Cacharel, moi j'ai connu Cacharel à travers Dorothée Bis, en allant un jour chez Dorothée Bis et Ellie Jacobson montrant et il me dit voilà, c'est quelqu'un qui est dans le midi me racontant toute l'histoire. Et après, Cacharel c'est devenu extraordinaire. Et ces détaillants-là, et on allait les voir parce qu'ils avaient des pêches qui nous intéressaient beaucoup. Ils ont joué un rôle important. Bon, après, Dorothée Bis a fait des collections, puisque Jacqueline Jacobson est devenue créateur, et bon, ce n'est qu'elle, je n'ai pas besoin de le dire, mais au départ, ces boutiques-là, je pense qu'il y en a d'autres, mais ça ne me vient pas. Bon, peut-être deux, trois autres ont beaucoup aidé à l'émergence de petites... des marques qui étaient petites et qui sont devenues grandes.
Est-ce que des commentaires, des questions ?
Je voulais savoir, et vous avez évoqué tout à l'heure les conseils que vous donniez à cette période où le prêt-à-porter était vraiment naissant et au fond c'était le grand désert. Vous donniez vos remarques, vos conseils. Est-ce que vous pourriez donner plus de détails sur l'apport
mais des
que
conseils
vous aviez...
dans le journal, vous
non,
voulez
non,
dire
vous avez évoqué tout à l'heure par exemple au bureau de style, j'imagine, de Maillard.
Ah, mais on ne donnait pas de conseils au bureau de style. Non, là, c'est quand
chez
on
Prise
a
Unique,
fait...
Non, pour les collections de Prise
Unique. Non, moi, je n'ai jamais donné de conseils à Denise Fayolle. Elle était bien assez grande pour faire très bien ce qu'elle avait à faire. Non, quand on faisait un numéro style, elle, qui était une collaboration avec un grand magasin, on échangeait avec les gens du bureau de style. Mais on ne s'est jamais pris pour des stylistes. Hein? Mais on faisait des propositions. C'est différent. C'est le bureau de style qui donnait des conseils, c'est pas nous.
Mais vous étiez quand même, vous aviez un rôle au-delà du... Vous étiez quand même prescripteur à cette époque, non? Vous aviez un rôle en tant que journaliste
au
média social, culturel, auprès des lectrices. Donc c'est un rôle quand même, vous n'étiez
oui,
pas juste...
Non, mais on a aussi... Mais oui, non, peut-être. Et tout d'un coup, on faisait, en ne se préoccupant pas du tout du marché, c'est vrai. Hein, on faisait, tout d'un coup, on lançait une couleur.
Que les Danton bon. Et Robespierre, comme vous surnommez, c'est quand même significatif.
Ça, vous parlez de Marie-Claire, là?
Ah, Marie-Claire,
non.
C'était...
Non, je ne sais pas. Quand est-ce que j'étais des Danton et Marie et Robespierre?
À l'époque de Elle.
De Elle? Mais j'en faisais partie?
Ah oui.
Ah bon, mais je n'avais pas.
Ah, vous ne saviez pas?
Bon, de toute façon, nous avons perdu la tête, donc...
Voilà. Oui, mais ça, c'est quand même significatif, vous étiez quand même...
Ah bon?
Alors, la question de la tendance est très floue, mais vous aviez un poids au-delà de la... Enfin...
Bah, on avait un poids parce que à l'époque les femmes suivaient, c'est vrai. On avait un poids, mais on faisait pas ça pour avoir. Enfin, on faisait ça dans l'espoir d'intéresser les lectrices. C'était une époque formidable. Il y avait énormément matière
à dire. Il y avait la télé, mais c'était pas développé. La radio, c'était pas autant développé. Il y avait pas l'internet.
Non, mais de toute façon,
aussi...
l'image. Bah, bien
voilà,
sûr.
C'était, vous étiez un des seuls relais d'information. Et vous évoquiez les annonceurs. Je pense que c'est un des points qui. Il y avait pas.
Non, moi, c'est vous les qui.
Oui,
avait...
oui, c'est moi, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, parce que.
Alors.
On en parle tous les jours.
Bah, aujourd'hui, il n'y a plus que ça.
Voilà.
Bon, alors que moi, j'ai eu la chance. J'ai quitté la presse en 88 et j'ai eu la chance d'avoir fait toute cette carrière dans la presse de 1950 à 1988 avec une totale liberté rédactionnelle. Donc c'est une chose qui ferait rêver peut-être aujourd'hui parce que c'est le contraire. Bon, alors, le problème des annonceurs, j'ai vécu très peu de problèmes précis, c'est-à-dire d'annonceurs mécontents. Dans cette longue période, on ne parlera pas de Marie-Claire puisqu'on parle de elle. Il y a eu un mécontent. Bon. Naturellement, quand on a des annonceurs, on va voir ce qu'ils font. On ne va pas les traiter par le mépris. On va voir ce qu'ils font. Si ce qu'ils font peut s'intégrer dans le journal, eh bien, on passera quelque chose. Mais c'était rarement quelque chose de sensationnel qu'on avait envie de mettre en pleine page. Alors, on trouve dans un sujet une façon moins importante de montrer ce qu'on trouve qui n'est pas mal. Mais par exemple, les pantalons karting, ils étaient dans tous les numéros de Elle, ils n'ont quand même jamais eu de rédactionnel. Bon. Mais... Quand l'annonceur faisait quelque chose de valable, on le passait. Bon. Et une fois, bon, il y a eu un cas, je peux citer le cas, parce que j'en parlais il y a une dizaine d'années quand même avec Jean-Claude Veille. La maison Veille était une des plus grosses maisons de prêt-à-porter et était un gros annonceur de Elle. Donc, quand je suis arrivée et que j'ai dit « je m'occupe du prêt-à-porter », on m'a dit « il faudra que vous alliez On fait tous les ans, chaque saison, on arrange un modèle et pour pouvoir le passer dans le journal. Donc, on a fait ça. Parce qu'il y avait toujours la chose qui ne nous plaisait pas. C'était le bouton, le rabat de poche. Ça aurait pu être bien parce que c'était des vêtements dans des bonnes matières. C'était de la confection de tout à fait valable sur le plan de la qualité. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas sur le modèle. Donc, on faisait un modèle spécial. Qu'ils n'avaient pas, ça c'est quand même leur faute, qu'ils ne diffusaient pas. Or, ils possédaient des boutiques, ils auraient pu le diffuser. Et un jour, dans les années 60, Jean-Claude Veil est venu voir Hélène Nazareff pour lui dire que s'ils n'avaient pas des modèles, qu'ils ne voulaient plus faire ce modèle spécial, qu'ils ne leur faisaient faire aucun chiffre d'affaires, et que nous devions prendre des modèles dans la collection. Et Hélène Nazareff m'a fait venir, mais j'ai dit, mais moi, je n'en trouve pas. Donc, on n'en passera pas, dit Hélène Nazareff, et vous retirerez, oui, parce qu'il menaçait de retirer sa publicité, eh bien, vous retirerez votre publicité, et dans 2 ans, vous reviendrez. Bon, je dois dire qu'on était très soutenus. J'ai eu la même chose à Marie-Claire. J'ai été très soutenue avec quelqu'un d'autre. Et voilà, bon, ça n'a plus aucun rapport avec ce qui se passe maintenant. Mais bien sûr qu'on va voir les annonceurs, on les respecte. On ne va pas dire parce qu'ils sont annonceurs, c'est mauvais. Et puis après, alors parce qu'on a lancé, on a aidé, ça c'était quand même formidable, de dénicher des nouveaux créateurs et d'être libre de leur donner de l'espace et de parler d'eux et de montrer leurs vêtements. Et après, quand les affaires se sont développées, ils ont toujours renvoyé l'ascenseur.
Oui, juste une toute petite question sur la couverture, justement. Couverture qui aujourd'hui est devenue un site stratégique vis-à-vis de l'annonceur. Qui est-ce qu'on met sur la couverture? À cette époque-là, ça n'avait pas lieu.
On mettait sur la couverture ce qu'on voulait. Généralement, c'était programmé pour être la couverture, et puis parfois ça ne l'était pas, parce que tout à coup, dans une série, il y avait une image qui s'imposait. Et bon, bah, c'était autre chose, le vêtement venait d'ailleurs. Alors la seule chose, mais ça, je ne me souviens pas du tout à elle, donc je ne pouvais pas en parler, parce qu'après, à Marie-Claire, la seule obligation que nous avions, c'était quand même de donner le maquillage à quelqu'un, à un tel ou à un tel. Mais alors, naturellement, la légende du maquillage, elle est totalement bidon, donc de toute façon, je pense qu'encore maintenant, parce que je ne pense pas qu'on fasse, enfin, j'en sais rien, peut-être qu'on fait venir le maquilleur de la maison. Mais bon ça c'est du bidon, ça, c'est pour faire plaisir, donc... Cette semaine, c'est un tel, la semaine prochaine, ce sera un tel. Non, nous étions totalement libres, Farid, complètement libres.
Est-ce que vous pourriez nous raconter la collection de Courrèges? Est-ce que vous pourriez nous raconter cette séance?
Non, je peux vous dire comment c'est passé. Je n'y étais pas, car j'ai travaillé beaucoup d'années dans ma vie. J'ai été malade une seule fois. J'ai eu une hépatite virale et je n'étais pas à ce défilé Courrèges. Je n'ai pas vu les collections, c'était 65 si ma mémoire est bonne, il me semble, enfin bon. Non, je n'étais pas au défilé, je n'étais pas à la séance. Mais elle a été montrée 36 fois. Peter a raconté comment, vous parlez de la séance, les filles perchées.
Voilà. Qui a été refaite la nuit, le journal a été refait.
Oui,
elles étaient perchées sur un tabouret.
Oui, elles étaient perchées sur un tabouret, photographiées d'en dessous, et à la retouche, on a enlevé les tabourets. Voilà. Ce qui fait qu'elles sont suspendues dans l'air avec leurs jupes courtes.
Écoutez, merci beaucoup.